Merci d'être avec nous sur RFI, 22h à Paris et Oslo, 20h en temps universel.
Mehdi Medeb.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. À mes côtés, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Mehdi, bonsoir à toutes et à tous.
Heureux de vous retrouver à la une des combattants de la liberté de la presse, récompensés du prix Nobel de la paix, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Mouratov. On sera à Moscou dans un instant.
Dans l'actualité également, un sommet Afrique-France, pas comme les autres. Emmanuel Macron vivement interpellé par 11 jeunes du continent africain sur la politique de la France.
La France et le procès des attentats du 13 novembre 2015, place à la parole des victimes au palais de justice de Paris, l'émotion contenue des survivants du massacre au Bataclan.
Et puis une bonne nouvelle pour l'Inde, après le cauchemar sans fin lié au Covid, le pays va mieux et annonce qu'il s'ouvre à nouveau aux touristes.
Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous.
Le journal en français facile.
Et la liberté de la presse au cœur du prix Nobel de la paix, Mehdi.
Deux journalistes d'investigation qui enquêtent ont reçu aujourd'hui le prix le plus prestigieux sur Terre, si on peut dire. Les deux lauréats, les deux récipiendaires, considérés comme des héros, des défenseurs infatigables de la liberté de la presse. Maria Ressa, des Philippines, a travaillé sur la campagne anti-drogue controversée et meurtrière du régime philippin. Et le Russe Dimitri Mouratov, l'un des co-fondateur. Il a co-créé la Novaya Gazeta. D'ailleurs, il a rendu hommage à la liberté, à ses collègues assassinés dans l'exercice de leur travail de journaliste. À Moscou, le reportage d'Anissa Al-Jabri.
C'est la première fois depuis des années qu'on le voit sourire, quelques étincelles de joie dans les yeux bleus de Dimitri Mouratov, accueillis chaleureusement par une nuée de journalistes au pied des locaux de Novaya Gazeta. Même le gardien armé en gilet pare-balles a l'air déboussolé par cette brise de légèreté qui flotte dans l'air. C'est que les bonnes nouvelles pour les journalistes en Russie sont rares. Sous les quatre immenses fenêtres du troisième étage dont les vitres sont masquées par d'immenses photos d'Anna Politkovskaya, Dimitri Mouratov se fait soudain solennel.
C'est le prix d'Anna Politkovskaya, Yuri Tchekochikine, Igor Dobnikov, Anastasia Baburova, Stanislas Markilov, Natalia Estemirova, celui de tous nos amis qui ont payé leur travail de leur vie.
Six journalistes et contributeurs de Novaya Gazeta tués en 20 ans. Pour ce prix, Dimitri Mouratov pense aussi à un vivant, lui aussi présélectionné.
Si j'avais été membre du comité Nobel, j'aurais voté pour la personne sur laquelle nombreux ici pariaient. J'estime que cette personne a tout l'avenir devant elle. Je parlais d'Alexei Navalny.
Ce prix va-t-il vous permettre de vous sentir désormais protégé ? À cette question, Dimitri Mouratov répond « Reposez-moi la question dans un mois ». Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Et ce vendredi, 9 journalistes ont été classés en Russie agents de l'étranger. C'est-à-dire qu'ils sont considérés en quelque sorte comme des traîtres. Ils ont été mis au ban. Dimitri Mouratov a promis d'ailleurs qu'avec ce prix Nobel, il allait les aider.
Voilà. Et puis une fusillade a éclaté aujourd'hui à Tripoli, en Libye, dans un centre de rétention de migrants.
Le chef de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, assure que 5 migrants ont été tués dans ce centre. Il y avait près de 5000 civils retenus, détenus dans des conditions apparemment atroces, ignobles d'après les témoins. Au cours de ces échanges de tirs aux contours encore un peu flous, eh bien beaucoup de migrants ont pu fuir et s'échapper du centre.
La France n'a pas vocation à rester au Mali.
Cette phrase prononcée par Emmanuel Macron tout à l'heure au sommet Afrique-France à Montpellier, c'est dans le sud de la France, le président français sommet appelé à s'expliquer par 11 jeunes Africains. Il l'accusait de soutenir des régimes dictatoriaux qui tripatouillent, qui modifient les constitutions. Sur le cas du Tchad, il a redit qu'il parlait de transition et non de transmission. Il a redit aussi que la France était en train de fermer des bases militaires de Barkhane au Mali d'ici 2020. 2023, il y aura moitié moins de soldats français.
Le Mali avec Barkhane encore à l'offensive.
Un nouveau chef djihadiste a été tué dans le nord du pays. Son nom, Oumar Modo Modi. Il était l'un des dirigeants les plus importants du groupe Ansarul Islam.
L'actualité en France, c'est le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui se poursuit.
La Cour a continué ce vendredi à entendre des rescapés, des survivants et des familles des victimes du Bataclan. Cette salle parisienne de spectacle prise pour cible par les terroristes il y a 6 ans. Pour certains des témoins, c'était la première fois qu'ils la racontaient vraiment en détail cette nuit d'horreur. C'est le cas notamment de Johanna, 34 ans aujourd'hui, qui a lu un texte très fort, très émouvant, Marine de la Moissonnière.
Sortie du Bataclan sans blessure physique et avec les deux amis qui l'accompagnaient, Johanna a longtemps considéré qu'elle n'était pas vraiment victime, mais aujourd'hui elle vient raconter ce qu'elle n'a jamais vraiment dit à sa famille ou à ses amis qui ne posent pas de questions ou pas les bonnes. Quand les tirs démarrent, Johanna, Florent et Mathieu sont dans la fosse. Ils tombent au sol dans une étreinte. Blessé, Mathieu lui dit « Tu diras à mon fils que je l'aime, tu lui diras toi-même », répond Johanna comme dans un film. Ils font alors les morts dans une mare de sang, supplie Mathieu d'arrêter de gémir. Johanna attend qu'un terroriste vienne la tuer. Je sais ce que traverse la Syrie, donc je prépare des arguments pour le convaincre de changer d'avis. Ce sont finalement les secours qui arriveront. Je sais désormais ce que ça fait de voir la mort en face, poursuit la jeune femme d'une voix assurée mais émue. Je suis prête à offrir mon pardon à ceux qui me le demandent, mais semer la terreur ne sert à rien, à part nourrir les discours de l'extrême droite. Aucun civil n'a été sauvé en Syrie par ce que vous avez fait. Je suis une mécréante, une rescapée, une bobo de gauche et pour certains, une islamo-gauchiste, revendique Johanna. Mais ce que je souhaite aujourd'hui, avec ce procès, c'est me nommer moi-même. Je suis et resterai une pacifiste.
Marine de la Moissonnière, l'Inde va rouvrir le pays aux touristes, Mehdi.
C'est une première, une grande première. Depuis le début de la pandémie du Covid, il y a 18 mois, le gouvernement a annoncé qu'il allait donner de nouveau des visas de tourisme. Les voyageurs autorisés à entrer dans le pays à partir de la fin de la semaine prochaine. Sur place, à Goa, au lieu touristique, on se prépare. Reportage de notre envoyé spécial, Sébastien Farcy.
Le village balnéaire d'Arambol, au nord de Goa, est surnommé la Petite Russie. Mais depuis 18 mois et la suspension des visas touristiques, plus aucun russe en vue. Sa belle plage de sable fin est donc quasiment déserte. Rohit Nageshkar possède 2 petits hôtels, les Casa Obligado et Casa Saesta, à côté de la plage.
Pendant la saison, les touristes étrangers représentaient 70% de notre clientèle, des Russes ainsi que des Israéliens ou des Français. Sans eux, ces derniers mois, nous n'avions que 5 à 10% de taux d'occupation.
Les touristes qui arrivent par voyage organisé et charter seront les premiers autorisés à entrer en Inde dès le 15 octobre, les autres un mois plus tard. Rohit Nageshkar estime que Goa est prête à accueillir les touristes dans de bonnes conditions.
Le gouvernement n'autorise les entrées à Goa que si vous avez un test PCR négatif ou si vous êtes vacciné. Chez nous, le personnel est vacciné et nous laissons toujours un espace de 24 heures entre 2 réservations pour désinfecter les chambres.
En Inde, la moitié de la population adulte a maintenant reçu une dose de vaccin contre le Covid-19, un taux qui monte à 80% à Goa. Sébastien Farcy, Goa, RFI.
Quand les rivalités diplomatiques gagnent le terrain du foot, Mehdi.
Oui, nouvelle illustration en Angleterre. Newcastle qui passe sous pavillon saoudien. Il a été racheté hier par un fonds d'Arabie Saoudite alors que City, Manchester City, est détenu par un homme d'affaires des Émirats Arabes Unis. Newcastle, qui était avant-dernier de Première Ligue, devient désormais l'un des plus riches au monde. Mais ce rachat fait polémique. Les associations de défense de droits de l'homme sont en colère. Explication à Londres, Marie Boéda.
Newcastle a trouvé son prince. Bienvenue dans le football anglais 2021, un endroit où personne n'est vraiment propre, écrit le Guardian. La deuxième fois était la bonne. Après une première tentative ratée il y a un an, les Saoudiens se sont enfin emparés des Magpies, un montant qui s'élève à 333 millions d'euros selon les médias britanniques. Sous Mohamed Ben Salman, la situation en Arabie Saoudite reste désastreuse, déplore Amnesty International. Il est accusé de multiples atteintes aux droits de l'homme. Le club a appartenu pendant 14 ans à un homme d'affaires britannique. Il devient aujourd'hui dépendant de la force fortune saoudienne. Les fans se sont regroupés hier pour fêter cette reprise. Le club de Newcastle se hisse parmi les plus riches comme Manchester City et le PSG. Ses supporters se prennent à rêver des sommets en championnat et sur la scène européenne. Marie Boéda, Londres, RFI.
Et si on avait encore un peu de temps, on parlerait des nommés pour le prix du Ballon d'Or, notamment en lice Lionel Messi pour un 7e sacre. Fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio.
Merci à vous.
Et merci à tous.